Bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre.
Bonjour. Bonjour à tous.
C'est Nathalie Perrin et là vous venez d'entendre
Isabelle Raviolo.
Isabelle Raviolo, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en présence de Marc Goldschmidt. Voilà, nous l'invitons avec grand plaisir pour son ouvrage « Sous la peau du langage, l'avenir de la pensée, de l'écriture ». Un très beau livre, très dense, très riche. Bonjour Marc, merci d'être venu à Radio Aligre cet après-midi en direct.
Bonjour Nathalie, bonjour Isabelle.
C'est un petit peu des retrouvailles pour nous parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On va tout vous dire à l'instant où on vous redit qu'Isabelle Raviolo est moi-même directrice de programme au Collège International de Philosophie, que philosophie au présent est l'émission qui est portée par cette institution dont Marc est le président et le directeur donc, du Collège International de Philosophie. Tu veux dire un petit mot avant de cette institution qui est une institution extraordinaire, qui est singulière dans le paysage de la recherche française et que tu contribues avec la précédente présidente Isabelle Alfandari, qui est une amie chère à toi, institution que tu essaies vraiment de valoriser hein, sur le plan national et international. Un petit mot d'abord, avant toute chose, de ta présidence au Collège International de Philosophie et de ta direction depuis hier.
Oui, d'abord vraiment merci de m'inviter en dehors de toute formule de politesse. Je suis, comme je le disais à Nathalie et à Isabelle, en dehors, en aparté avant de commencer, on est tellement contraint par le médium de la visioconférence que quand on se retrouve en chair et en os, on est presque stupéfait. Enfin voilà, et donc extrêmement heureux et ému. Je le dis sans aucune ruse rhétorique. Donc le Collège international de philosophie a, grâce à Nathalie et Isabelle, passé une convention avec Radio Aligre et ce qui donne lieu à cette émission de radio Voix de la philosophie.
Oui.
Voilà, je en tant que président de l'Assemblée collégiale, je suis très heureux de l'existence de cette émission. J'espère qu'elle va durer, être féconde, se déployer, être visible et audible.
Oui,
donc
ben,
voilà.
On essaie.
Et sinon, le Collège international de philosophie, institution fondée notamment par Jacques Derrida en 1983, à un moment très particulier de l'histoire de l'enseignement de la philosophie, c'est une institution d'enseignement et de recherche constituée dont la nervure principale est constituée par des séminaires et des colloques, des forums, des journées d'études, des samedis du livre, des bords de plateau, des écrans philosophiques. C'est une institution, vraiment, c'est un espace de liberté et d'ouverture pour tous ceux qui veulent travailler et effrayer, j'ai envie de dire, l'inconnu, ou en tout cas, ce qui reste à penser.
Oui. Bon, mais en tout cas, merci Marc d'être venu. C'est la première fois que voilà, notre président vient ici. Voilà, on est très heureux et aussi de parler de ton dernier ouvrage. Alors, oui. pour les auditeurs, une petite présentation de Marc. Donc, habilité à diriger des recherches. J'ai pas vu la date.
Alors, habilité depuis septembre 2018.
Voilà, bon,
à l'Université de Paris Sorbonne Nouvelle.
D'accord.
Grâce à la personne qui m'a soutenu, accompagné avec toute la générosité et l'intelligence extraordinaire qui la caractérise, qui est Isabelle Alfandari, qui m'a précédé à la présidence du Collège international de philosophie et aussi à la direction de la composante. Donc j'ai pris deux fois sa succession et donc je la salue ici.
Oui. Et on la salue également, oui, Nathalie, oui, on l'a bien connue puisqu'on a été sous sa présidence.
Oui, oui, nous on a fait les deux, on a bien de la chance. Oui. Alors bon, la France aime beaucoup les diplômes, mais l'habilitation à diriger des recherches, c'est quand même le summum, non, on peut le dire. Où la France cesse de nous demander des comptes, ou de vous demander des comptes, non, c'est le plus haut niveau de la recherche, quand même, l'habilitation à diriger des recherches.
Oui, c'est ce qu'il y a, je ne vais pas parler longuement de l'habilitation, c'est ce qui a succédé au doctorat d'État en 1980, alors je ne sais plus exactement, je pense que ce n'est pas loin d'ailleurs de la création, de la date de création du Collège international de philosophie, et c'est donc constitué de l'ensemble des textes qu'on a pu écrire, d'un inédit et d'un volume de synthèse, voilà.
Voilà.
Et ça permet de diriger des thèses et des habilitations à diriger des recherches.
Voilà. Bon. Alors, une thèse de doctorat qui a été soutenue, qui s'appelle l'écriture du messianique, soutenue en 2009 à l'Université de Strasbourg. Donc, je le disais à l'instant, président de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, directeur de la composante du Collège international de philosophie depuis hier, spécialiste de Jacques Derrida. Hein, on peut le dire, et des champs, des domaines d'écriture qui touchent à l'écriture même, qui touchent à la musique. Qu'est-ce que j'ai oublié encore ?
Oui, alors quand on me dit spécialiste de Derrida, je peux pas être dans la dénégation et dire non. J'ai écrit un ouvrage qui est pour moi un ouvrage de jeunesse parce que c'est mon premier livre qui s'appelle Jacques Derrida,
une introduction, oui, voilà.
Voilà, aux éditions Pocket, qui a été, dont la première version date de 2003. Et ensuite, quand on écrit un ouvrage sur un auteur, une monographie, que l'ouvrage n'est pas trop raté, on est invité à des colloques et à donner des conférences. Donc, nécessairement, ce qui s'est passé, c'est que après mon livre sur Derrida, j'ai dû continuer à travailler sur Derrida. Et je l'ai fait de bonne grâce. Et puis on sait aussi que quand on travaille vraiment un livre, quand le livre est fini, c'est là qu'on découvre
ce qu'on a
tout le travail qui s'ouvre.
Oui.
Voilà. Mais je suis pas seulement spécialiste de Derrida. J'ai aussi beaucoup travaillé sur Walter Benjamin, notamment à l'occasion de ma thèse. C'est une œuvre qui compte pour moi autant que celle de Derrida et d'autres. Et je m'intéresse à la question, alors beaucoup à la question du théologico-politique dont on parle. Peut-être parler aujourd'hui, et aussi à tout ce qui concerne écriture, littérature et art.
D'accord. Alors, on en profite, on refait un petit point sur les ouvrages, en tout cas principaux, qui caractérisent ton œuvre en ce moment. Donc, Jacques Derrida, une introduction, Agora Pocket 2003 pour la première version, vient d'en parler. Et puis, l'écriture du messianique, la philosophie secrète de Walter Benjamin, qui est paru chez Hermann en 2010. L'hypothèse du Maran, aux éditions du Félin, en 2014. J'ai relevé aussi en co-direction avec Eric Marty, Pensée au cinéma, qui a paru aussi chez Hermann en 2015, et puis un Jacques Derrida, La philosophie hors de ses gonds, édition TER 2017. L'opéra, la place de la musique, on sera peut-être amené à en reparler dans ton œuvre, L'opéra sans rédemption ou Eros musicien, voilà, Aedem Musicae, hein, pour la maison d'édition 2017, et puis avec Isabelle Alfondari, dont on a parlé à l'instant, L'énigme Nietzsche, édition Manutius en 2019, et puis Sous la peau du langage, voilà, L'avenir de la pensée de l'écriture chez Kimé 2020, pour lequel tu es venu nous parler aujourd'hui. Voilà, j'invite les auditeurs à aller voir aussi les articles qui sont référencés quand on essaie un petit peu de saisir les dimensions de ton œuvre. Alors peut-être une première question pour lancer un débat qui se veut malgré tout, qui se veut ouvert et qui veut essayer de communiquer à nos auditeurs quelle est un peu la substance de ton ouvrage. Une question peut-être toute simple, pourrais-tu revenir pour les auditeurs sur un peu la genèse de cet ouvrage qui est assez polémique, hein, qui est, hein, quand même, bon, on en reparlait de ça, et puis qui moi m'a beaucoup intéressé un petit peu le socle fondateur de cet ouvrage. Qu'est-ce qui finalement t'a inquiété et qui a fait que ton écriture est née et que cet ouvrage a paru?
Je vais essayer de pas être trop long, mais bien entendu, comme c'est la première question de la mise en situation, en perspective de mon travail, c'est certainement là, ça va certainement peut-être être ma réponse la plus longue. Oui. D'abord, descriptivement, ce livre, il est constitué d'une série de chapitres. Un premier chapitre sur Foucault, un deuxième chapitre sur Lévinas, un troisième chapitre sur Blanchot, un quatrième sur Blanchot et Barthes, un autre sur Granel. Et je donne juste les corpus que je traverse. Hein, Granel Derrida, Lacan Derrida, ensuite un chapitre consacré à Michel de Guy, l'avant-dernier chapitre ou le dernier chapitre selon ce qu'on, comment on analyse mes dernières pages, donc c'est le chapitre polémique,
oui.
Contre sure. les adressés, comment dire, polémique adressée aux travaux de Quentin Meillassou et Catherine Malabou, et une conclusion ou une ouverture finale sur la question du rapport entre circoncision et écriture. Mm. Voilà, ça c'est descriptif pour juste faire signe sur les corpus que je traverse. Et donc l'idée du livre, alors il y a plusieurs provenances. Si vous voulez, ce livre, d'abord la première chose, c'est qu'il a été écrit en parallèle, en simultané avec un deuxième livre qui est paru il y a quelques semaines, qui s'appelle... la littérature, l'autre métaphysique, qui est paru aux éditions Manusus. Ils ont été écrits en même temps, ils sont sortis à quelques mois d'écart chez des éditeurs différents. D'ailleurs, je veux dire ici combien je remercie Béatrice Charrier, l'éditrice des éditions Quimet, qui fait un travail extraordinaire.
Oui, les livres sont très beaux. Hein.
Ils sont beaux, ils sont extraordinairement bien diffusés, et la relation qu'on a avec cette éditrice est exceptionnelle, et c'est vraiment, elle fait un travail d'éditeur, j'ai envie de dire, non pas, si vous voulez, voilà, ces éditeurs qui ont le courage de publier des livres qui passent pas dans les grandes maisons, il faut être plein de gratitude et vraiment être reconnaissant vis-à-vis du combat politique qu'ils mènent pour la démocratisation, j'ai envie de dire, de la pensée et du travail d'écrivains, qui est un travail précaire. Donc, j'ai fait deux choses en même temps. J'ai écrit deux livres en même temps, donc pendant plusieurs années. Un livre sur la littérature, hein, de Homer à Joyce. Mmh. De Homer à Joyce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui m'a intéressé dans ce travail sur la littérature... Donc là, je commence par une sorte d'esquive. Je parle de mon autre livre.
Ah, oui, mais c'est intéressant.
Parce qu'ils sont inséparables.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Ils sont inséparables. Ouais. Et donc... d'une certaine manière, sous la peau du langage, l'avenir de la pensée de l'écriture paru aux éditions Quimet, et la suite, ou plutôt travaille le pan qui est laissé en suspens par le livre sur la littérature. Mmh. Alors, le livre sur la littérature, on va dire, où je traverse les corpus de Homère, de Boccaccio, de Shakespeare, de Kafka, Flaubert, Conrad, Proust... Joyce, et je suis sûr que j'en oublie un, Hölderlin, c'est un livre qui est consacré à la question, une question critique et polémique, qui est que j'ai voulu réinvestir le concept de métaphysique et le réélaborer. Mmh. C'est-à-dire ce qui m'a frappé dans toute la philosophie du XXe siècle, que ce soit celle de Wittgenstein ou de Heidegger, que ce soit la philosophie issue de Heidegger ou la philosophie issue de Wittgenstein, c'est qu'il y a une espèce d'accord qui s'est mis à me poser problème, d'accord contre le concept de métaphysique, et de manière presque univoque, même s'il y a ces mouvements de pensée sont très très hétérogènes et entrent en conflit entre eux, cette manière très péjorative de déterminer la métaphysique. Mmh. Et donc je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre manière d'entendre ce concept et de le faire travailler. Et j'ai essayé de faire surgir dans les textes littéraires, dans certains textes littéraires, pas tous, une pensée métaphysique, qui peut être d'ailleurs une métaphysique de la physique, que j'ai associée ou articulée à la question de la modernité. C'est-à-dire, il y a, j'ai envie de dire, plusieurs manières d'entendre le concept de modernité. La modernité, c'est soit une époque et une scansion de l'histoire, soit c'est une modalité, j'ai envie de dire, achronique ou de rupture, hein, de césure, de coupure de l'histoire, et la modernité, elle peut, de ce point de vue-là, se repérer à plusieurs époques. Et donc je me suis intéressé à des textes de littérature que j'appelle modernes, c'est-à-dire critiques, c'est-à-dire des textes de rupture, et j'ai essayé de montrer, alors c'est très, ma stratégie est une stratégie de joueur aussi, j'ai joué une métaphysique contre une autre. Et donc, ce que j'ai essayé de chercher dans certaines strates des textes littéraires qui m'ont intéressé, c'est comment la pensée littéraire en littérature, comment la littérature constituait une espèce de contre-métaphysique, c'est-à-dire une pensée qui n'était ni théologique, ni ontologique, ni phénoménologique. Voilà, et donc j'ai cherché cette dimension critique subversive, hétérogène, insaisissable et proprement littéraire de toute une série de textes. Voilà, c'est ce que j'essaie de mettre à jour. Et ce livre, il s'arrête au début du XXe siècle, hein, et il s'arrête au moment où la modernité philosophique, elle est en train de se déployer à travers, alors j'ai envie de dire, trois immenses penseurs, enfin quatre, Wittgenstein, Heidegger, mais aussi Benjamin et Adorno. Mmh. Et donc, mon livre, Sous la peau du langage, il vient après ce tournant de la modernité philosophique des années, j'ai envie de dire des années 20, des années 20, 30, même si Adorno, La dialectique négative, c'est 1966. Mon livre, Sous la peau du langage, il commence justement après La dialectique négative. C'est-à-dire que j'ai cherché, là, chez les philosophes cette fois-ci, et non plus dans les textes littéraires, comment Foucault, Lévinas, alors Blanchot, Barthes, qui ne sont pas strictement des philosophes, qui sont plutôt des critiques littéraires, mais qui élèvent la critique littéraire au rang de la pensée, Derrida, Granel, Lacan, très très psychanalyste, très très philosophe, dans un rapport très complexe et éminemment savant par rapport à la philosophie. Comment cette histoire de la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle, elle engageait, après Heidegger et Wittgenstein et après Adorno et Benjamin, un rapport d'explication de corps à corps avec la question du langage. Et ce qui m'a intéressé, c'est de prendre la chose de manière négative, c'est-à-dire je me suis intéressé à la manière dont surgissait ou ne surgissait pas une pensée de l'écriture. Parce qu'il m'a semblé, et je dois ça non seulement à Derrida, mais aussi à Lyotard, mais surtout à Benjamin, hein, que c'était la question de l'écriture qui était le mouvement qui travaillait le corps à corps avec le langage. Et donc mon livre commence après Wittgenstein et Heidegger, c'est-à-dire après ce qu'on appelle le tournant linguistique ou langagier de la philosophie. Le tournant langagier, le linguistic turn en anglais. Alors, évidemment, c'est pas la même chose, c'est Wittgenstein et Heidegger, parce que c'est pas les mêmes traditions, mais c'est ça qui m'a intéressé dans un premier temps. Donc, c'est de chercher dans la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle un corps à corps avec la question du langage à travers ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, subversif, blessant, étrange, la question d'écriture. Donc ça fait écho à mon livre sur la littérature, hein. C'est une espèce de pendant. C'est comme si au XXIe siècle se déployait une philosophie qui pourrait permettre d'entrer en rapport avec la métaphysique littéraire. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc c'est une manière de réécrire l'histoire de la philosophie du XXe siècle, hein, à travers la question du langage et de l'écriture. Sachant que l'écriture, c'est à la fois ce que j'appelle écriture, même si je mets, le livre entier essaie de déployer un concept, j'entends par écriture, à la fois une tentative d'excéder le langage et en même temps un travail à la limite du langage qui fait surgir qu'on n'en sort pas. On ne sort pas du langage. Et alors, la dernière chose que je voulais dire, et qui pointe dans l'avant-dernier chapitre du livre, ouais, le chapitre polémique, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, donc on est entré dans le 21e siècle depuis quelques temps, chez les philosophes et théoriciens, il y a à la fois une liquidation du pas gagné par la philosophie, donc de manière très polémique contre la polémique, hein, parce oui, que oui. Malabou et Meyassou, ils sont aussi très très polémiques et très violents dans leur manière de faire. J'essaie de refuser cette liquidation de toutes les avancées philosophiques du XXe siècle.
Mmh. Et de faire en sorte que la philosophie ne soit pas la servante de la mathématique, enfin, ou de la biologie, ce qui se passe visiblement à travers Meyassou et Malabou. Alors du coup, cette articulation du métaphysique, comment tu articules métaphysique, langage, pensée de l'écriture ? Est-ce qu'on peut essayer d'articuler ça ? Parce que tu portes une pensée de l'écriture à travers ton ouvrage qui se défie du langage tel qu'il est, si on en prend une définition simple, porteur, enfin, informatif, rationalisant. Tu remets dans cette pensée de l'écriture à travers l'examen et de ces auteurs que sont Foucault, Derrida, Lacan, etc. Tu remets au jour une pensée de l'écriture, c'est-à-dire une autre manière peut-être de parler le monde, d'écrire le monde.
C'est très compliqué comme question. Ce que je peux dire, c'est que les philosophes, les corpus philosophiques qui m'ont intéressé dans Sous la peau du langage, l'avenir de la pensée des écritures, sont des corpus philosophiques qui sont pour moi les plus profonds et les plus puissants de la seconde moitié du XXe siècle, qui sont pour moi des corpus à la hauteur desquels on n'est plus aujourd'hui dans le travail philosophique. Et c'est pour moi des corpus qui ont cela de singulier. Peut-être que je mettrais de côté, à côté, celui, le corpus de l'œuvre de Lévinas, et peut-être celle de Lacan, mais j'en suis même pas sûr, par rapport à la question de la métaphysique. Ce qu'il y a de commun à tous ces corpus philosophiques, à toutes ces œuvres, c'est qu'elles ont un rapport très critique, hyper critique à la question de la métaphysique. Elles sont vraiment, c'est des œuvres qui sont post-heideggeriennes pour la plupart d'entre elles, hein, puisque en fait, disons les choses très franchement, les auteurs dont je traverse les textes dans mon livre Sous la peau du langage produisent des élaborations post-heideggeriennes. Moi, ce que je fais de manière très benjaminienne ou derridienne, selon ce qu'on veut, la manière dont on veut déterminer la chose, c'est que en lisant des textes, j'essaie de trouver, je cherche ma propre pensée dans la trace des autres. Voilà. Parce que je pense que c'est ça aussi qu'on a perdu, c'est le rapport au texte. Oui. C'est-à-dire des espèces de rigueur et de probité folle qu'il y a, alors de manière très très différente, j'ai envie de dire, cette philologie, non pas universitaire, mais cette philologie pensante et philosophique, je pense qu'on est en train de la perdre. C'est-à-dire que on écrit des livres, mais on n'en lit plus. Alors moi, je fais quelque chose évidemment qui est très problématique pour moi-même, c'est-à-dire que j'essaie d'écrire des livres qui s'inscrivent dans d'autres livres, et donc c'est des livres difficiles à lire, parce que c'est du commentaire de commentaire, ou c'est du texte dans des textes, comme disait Montaigne, on ne fait que s'entregloser, voilà. Oui. C'est de l'entreglose. Et il me semble que c'est ça qu'on est en train de perdre. Et mon livre sur la pensée d'écriture, il est aussi un livre de cet ordre-là. Maintenant, ce qui caractérise c'est les corpus que j'ai traversés dans ce livre-là, c'est un rapport très négatif à la métaphysique, parce que ce sont d'une certaine manière des penseurs qui viennent après Adorno, après la dialectique négative et après l'idée que la métaphysique a sombré, qu'il a fallu peut-être l'accompagner dans sa chute et qu'il ne reste que des micrologies. Ça, c'est la fin de la dialectique négative, extraordinaire fin. Dans mon livre sur la littérature, donc la littérature, l'autre métaphysique, paru aux éditions Manufus le mois dernier, j'essayais de contester ça. Donc en fait, je joue sur deux tableaux qui sont en tension. ma métaphysique littéraire que je cherche chez Homer, chez Boccaccio, chez Shakespeare, chez Kafka, Flaubert, Proust, Conrad ou Joyce, Hölderlin. C'est une pensée critique et un rapport à, j'ai envie de dire, la théologie et l'ontologie qui est tout à fait différent de celui qui se déploie chez les philosophes de la seconde moitié du XXe siècle. Chez les philosophes de la seconde moitié du XXe siècle, le rapport de combat à la fois à l'intérieur et contre ce qu'on appelle l'ontothéologie est pas le même que celui qu'on a dans la pensée de la littérature.
D'accord.
Oui, moi, j'aimerais vraiment poser une question par rapport à votre livre très intéressant, Marc, Sous la peau du langage. Je l'ai lu, puis on a été reconfiné, donc je l'ai relu après. Et j'avais préparé en premier une série de notes et de questions. Vous cherchez souvent, Marc, à rouvrir la pensée de l'écriture en montrant combien la philosophie est orientée par le transcendantal. Mmh. Et là, vous dites que la rhétorique surgit au cœur du sujet à partir de sa finitude. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, même concernant ce livre qui vient de paraître. C'est-à-dire au cœur d'une blessure. Et c'est justement à ce dernier pan du livre sur la circoncision que j'aimerais revenir. Je dirais que la blessure... Qui aussi caractérise une appartenance, une alliance dans le judaïsme, qui ouvre l'espace de l'imagination, donc de la littérature, du rêve, on pourrait même ajouter de la rêverie, du songe, avec des auteurs que vous ne citez pas expressément, ils ne font pas partie de votre corpus, mais je les ai sentis en filigrane, Marc. Je pense à Gérard de Nerval, je pense à Edgar Allan Poe. Il y a au fond toute une part de rêve comme seconde vie qui serait à la source même de l'écriture. Alors, quelle est la nature même de cette blessure et comment le sujet l'éprouve-t-il? Et par suite, en quoi fait-elle appel à notre liberté?
C'est des questions immenses et très difficiles, mais quand on écrit un livre, il faut surtout un livre de philosophie, à un moment donné, il faut le porter.
Oui.
Et donc, et c'est très compliqué de le porter, parce que ce que je dis souvent, je ne suis pas le seul à le dire, c'est vrai qu'on parvient à dire des choses en écrivant qu'on ne peut pas dire en parlant. On peut pas les dire parce que j'ai envie de dire l'espace de l'écriture sur la page permet de déployer des stratégies labyrinthiques bien plus complexes et à plusieurs niveaux, alors que la parole elle est beaucoup plus désarmée, désemparée. Et d'ailleurs, je pense que c'est Roland Barthes qui disait ça, que les grands écrivains avaient été non pas bègues, mais avaient eu un retard de la parole dans leur enfance. Et je pense que d'une certaine manière, l'écriture, elle peut, je dis pas qu'elle le fait systématiquement, mais elle peut naître d'une fragilité ou de la parole orale. D'une manière de bégayer ou de comment dire, de pas savoir dire, en tout cas pas immédiatement ou pas spontanément. Alors bon, c'est des questions. Je sais pas par où prendre la chose. D'abord, il y a évidemment toute une série d'œuvres que je ne cite pas. Ça veut évidemment pas dire que je n'y pense pas. Je ne sais pas si Nerval serait une de mes références, Poe certainement beaucoup plus. En tout cas, mon corpus et mes, comment dire, l'espace de ce que j'essaie de déployer n'est pas fermé. Et d'une certaine manière, les lecteurs, quand ils lisent des livres, ils peuvent toujours eux-mêmes réinventer à leur manière, hein, se ressaisir de ce qu'ils lisent et l'articuler autrement à d'autres corpus de textes. Et j'ai envie de répondre à Isabelle Raviolo que pourquoi pas Poe et Nerval, si elle y entend résonner Poe et Nerval ou d'autres. Voilà. C'est vrai que Quand on finit d'écrire un livre ou deux, puisque là j'ai écrit deux livres en même temps, j'en projette un troisième sur Freud, Benjamin et Adorno, c'est-à-dire sur la question justement de la, du rapport entre la modernité, la critique et le concept de les vestiges d'une pensée du sujet. C'est par là que je vais répondre, Isabelle.
Oui, Marc, je vous écoute.
Quand je pense au travail ou à l'écriture du rêve, j'avoue que je pense davantage à Adorno, mais surtout à Benjamin et Freud. C'est ça qui résonne. Mon travail, il est secrètement, souterrainement, même si les étiquettes, c'est toujours des formes de bêtises, mais il est benjaminien freudien. Enfin, il veut l'être, en tout cas. Et donc, ce que j'essaie de faire avec cette question du transcendantal, d'abord, je suis depuis très longtemps un lecteur assidu de Kant.
Oui, ça se voit dans le livre.
Hein, voilà.
Le travail, je dirais presque le règlement de compte vis-à-vis de ceux qui utilisent mal Kant et surtout le kantisme de la philosophie scolaire et universitaire de bas de gamme.
Je suis très chatouilleux sur Kant. Mais d'ailleurs, c'est une grande question de la philosophie du XXe siècle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, beaucoup de philosophes, notamment ceux que j'ai travaillés dans Sous la peau du langage, sont très anti-hegéliens. Il y a une espèce de combat contre la pensée de Hegel, plein de raisons. Le seul qui fait exception, peut-être, à part Heidegger, qui me semble, moi, toujours très, très, très hegélien, même si, même si Hegel est l'ennemi déclaré de Heidegger, c'est Adorno, qui est vraiment un hegélien négatif et qui ne sort pas de Hegel, et d'ailleurs Derrida non plus. Mais Derrida, ce qui est très curieux, c'est qu'il ne sort pas de Hegel, et en même temps, il est presque, comme l'a montré de manière très très puissante Michel Cohen-Halimi dans son livre La stridence spéculative, d'une certaine manière, Derrida, il rate la dialectique négative, il la creuse pas, ce qui est très très intéressant. Et donc ce que je voulais dire, c'est que souvent Kant a servi d'instruments ou de penseurs anti-hegéliens. C'est-à-dire, soit on est kantien, c'est-à-dire on maintient la position de la critique. C'est-à-dire, c'est quoi la position de la critique ? C'est la position de la finitude et de la césure. Et soit on est du côté de l'absolu. Voilà. Et je dis ça de manière très caricaturale. C'est-à-dire qu'il me semble que Kant, je vais dire une banalité, ça a été une révolution incomparable dans l'histoire de la pensée occidentale, que ça a été la critique de la raison pure a eu un effet qui a été celui d'une catastrophe. Ça a été vécu comme une catastrophe. Kleist dit que quand il l'a lu, il l'a vécu tellement intimement qu'il a éprouvé le désir de se suicider. Voilà. Heine dit que c'est l'équivalent de la décapitation du roi au moment de la Révolution française, mais dans la philosophie. Donc ça a été une commotion, la pensée de Kant. Et il me semble, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je ne l'ai pas dit encore, notamment dans mon livre sur la littérature, la littérature, l'autre métaphysique, c'est qu'il faut jamais, il ne faut pas, quand on est philosophe, négliger le romantisme et la question du romantisme. Le romantisme, à peu près au même moment que le hegélianisme, a été une tentative gigantesque, titanesque, extraordinaire, de, d'une certaine manière, recoudre, suturer ce que Kant a brisé, à ce que Kant a coupé. Et ça a été une première tentative dans le fond, restituer l'absolu du sujet, mais au niveau de l'art, au niveau de l'art chez les romantiques allemands. Alors je pense essentiellement à Friedrich Schlegel et à Novalis, et aussi au niveau de la, du concept chez Hegel. Et donc cette espèce de moment extraordinaire de la pensée philosophique, Kant, le romantisme, Hegel, pour moi c'est un moment auquel je reviens toujours parce que il me semble complètement constitutif de ce qui s'est passé après. C'est-à-dire on sort pas de cette chose-là et le transcendantal. Ce qui m'a frappé quand j'ai lu le livre de Quentin Meillassou et le livre de Catherine Malabou, la première chose qui m'a frappé, c'est leur violence, j'ai presque envie de dire quasiment journalistique à l'égard de Kant, ouais, et de la question du transcendantal. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent de manière différente liquider le transcendantal. Et ce qui m'a frappé, donc le livre de Quentin Meillassou, Après la finitude, aux éditions du Seuil en 2006, et le livre de Catherine Malabou, qui s'appelle Après-demain, aux éditions PUF en 2014, c'est des livres extrêmement habiles. Et la philosophie en ce moment, elle est là-dedans. C'est-à-dire, on a affaire à des auteurs qui sont des universitaires, qui écrivent extrêmement bien, qui sont très malins. Tous le sont pas, hein, mais eux le sont. Ils sont très malins. Ils disent des choses qui sont stimulantes. Mais ce qui est frappant, c'est que leur habileté, elle est une forme de l'amnésie. C'est-à-dire, ils le cachent pas d'ailleurs, des liquidateurs. Et là, ce qu'il y a de commun entre le livre de Quentin Meillassou et celui de Catherine Malabou, qui sont des livres récents, dans le fond, hein, 2006, c'est un peu loin, mais 2014, c'est plus proche de nous. Il s'agit de liquider Kant, comme si Kant était... et donc la question du transcendantal était finalement une horreur, hein, quelque chose qui nous a mis dans un cul-de-sac, parce que justement, ça nous a coupé de la réalité, hein, de la... Alors, ce que, comment dire... dans le fond, comme si Kant était une figure catastrophique dans l'histoire de la philosophie. Et ce qui me frappe, c'est que quand on creuse, hein, on s'aperçoit que leur rapport à la philosophie de Kant, elle est très... d'abord, elle est très brutale et méprisante. C'est-à-dire, il y a une espèce de niveau de violence très grand dans leur écriture. Et ça, c'est la première chose qui est singulière. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'anamnèse philosophique, on n'est plus dans le travail du texte, on est dans une espèce de geste d'affect de colère, hein, et aussi d'affect nihiliste.
Oui,
et
très orienté par Badiou aussi.
Oui, oui, alors ça, c'est vrai pour Meillassou. C'est vrai
pour Meillassou, voilà.
Absolument.
C'est ça, notamment.
C'est vrai que peut-être que la violence... Alors, moi, j'ai trouvé, je le dis d'ailleurs dans mon chapitre qui s'appelle... donc c'est
l'énigme du transcendantal, ouais. C'est ça. Hein,
exactement.
Au-delà du réalisme spéculatif et de l'épigénèse de la raison.
Exactement. Et donc là, j'essaie de répondre à la question d'Isabelle. Hein,
oui.
Il faut beaucoup de présupposés pour répondre. Ma réponse, Isabelle... C'est la chose, elle va vers pourquoi le transcendantal ? Qu'est-ce que c'est ? Et quel rapport ? Pourquoi la circoncision quand on s'intéresse au transcendantal ? Et quel rapport entre circoncision, écriture et transcendantal ? Alors, d'abord, la première chose qui m'a frappé dans le travail de Meillassou et de Malabou, et qui me frappe quand je lis Kant, c'est que... je vais le dire de manière un peu brutale, puisque finalement, ils le sont aussi, c'est qu'ils veulent liquider le transcendantal. C'est-à-dire, ce qui me semble le plus profond et le plus bouleversant dans le travail philosophique. Qu'est-ce que j'appelle transcendantal ? J'appelle transcendantal dans la philosophie le mouvement qui consiste, enfin qui consiste pas justement, le mouvement de recherche de l'inconnu, c'est-à-dire de recherche de ce qui excède le savoir, le langage, le mouvement de recherche de l'origine, j'ai envie de dire.
Oui, je te cite là, comme ça, incise dans ton discours, mais tu écris « Kant a été le premier à rendre sensible la philosophie comme mouvement d'inquiétude tourné vers le transcendantal ». C'est très beau, ce mouvement d'inquiétude. Et on a l'impression, enfin, dans ta réhabilitation de Kant, ce que moi j'y ai lu, c'est aussi une défense de la philosophie en tant qu'elle est capable de porter cet inconnu, qu'elle est avant toute chose une pensée de l'inquiétude, et qu'elle s'est, on pourrait dire, construite à l'écart d'une pensée scientifique, mathématique, d'hyper-rationalisation. Et là, il y a chez toi quelque chose, alors là, je m'excuse parce que peut-être je ne suis pas très juste, mais il y a dans ton travail, dans cette, moi j'y ai lu une défense de la philosophie, mais comme une poétique aussi, une philosophie qui est une poétique. Alors on reviendra peut-être à la fin sur cette idée du métaphorique, hein, qui n'est pas détachable de cette idée aussi de transcendantal.
Elle est vraiment importante, Nathalie, hein, merci d'y revenir, parce que je l'avais notée en gras et en gros dans mon texte, le métaphorique, et la réponse... que Marc a faite sur le transcendantal, elle est très éclairante, en fait.
Oui, absolument.
Et c'est vraiment, comme il le disait lui-même, alors je le cite, mais à l'oral, restituer l'absolu du sujet au niveau de l'art. C'est intéressant parce que à partir de la littérature et du rêve, donc ce que vous amenez en priorité, Adorno et Freud, hein, vous l'avez rappelé, on pense aussi à Nietzsche, au livre que vous avez fait avec Isabelle Alfandari, et à cette force de l'esprit voyageur. Et en relisant votre livre pour l'émission, après le reconfinement, j'ai repris le Gai Savoir et la fin du Gai Savoir sur ces voyageurs qui ont ce courage de l'indépendance, dit Nietzsche, et qui risquent la haute mer. Hein, c'est la métaphore, pour le coup, qu'ils déploient. Et alors, de la métaphore vive de Friedrich Nietzsche à celle que Marc Goldschmidt celle dont il use dans « Sous la peau du langage », il y a vraiment quelque chose de ctonien dans son écriture à Marc, je trouve. « Sous la peau du langage », on est ici dans une trame abyssale qui, au fond, rejoint la marque, hein, de la circoncision, c'est-à-dire d'une alliance, mais qui ne se voit pas. Voilà. C'est une cicatrice qui inscrit le judaïsme dans la continuité, c'est vrai, d'un logos grec, mais en s'en écartant. Parce que moi, quand j'ai pensé à cette marque de la circoncision dans la chair, j'ai pensé à la cicatrice d'Ulysse, qui était reconnue par la nourrice.
Oui.
Et c'est intéressant parce que c'est dans le judaïsme la maman qui apporte le bébé. Bon, il y a le père, mais c'est la mère qui donne l'enfant. Hein. Et au fond, c'est une façon... Et puis c'est elle qui fait la filiation du judaïsme. Et c'est-à-dire que c'est une façon de signifier par cette filiation la peau d'un langage souterrain. Donc en fait, il y a chez Marc un travail de l'incarnation, mais d'une incarnation voyageuse qui s'ancre dans la finitude kantienne, le transcendantal dont vous parlez, Marc, de façon très juste, mais dans l'antéprédicatif, qui rejoint complètement l'art pour moi. Et particulièrement un tableau que j'aime beaucoup, c'est l'écriture rose de Simon Antaille. Vous avez effectivement, à travers donc, l'intrication de la couleur, de la matière, et des signes religieux, on voit notamment l'étoile de David et la croix, hein, l'alliance qui passe d'un peuple à un autre et qui dit l'humanité. Parce que ce n'est pas un communautarisme, en fait, hein, le langage. C'est précisément ce voyage, cette métaphore, la métaphore dont je vous parle et que je reprends de Nietzsche, c'est-à-dire l'océan. La mer, enfin l'étendue qui est plus l'océan que la mer, parce qu'il y a un mouvement de flux et reflux qui caractérise l'écriture.
Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le transcendantal, mais ce que je veux dire là, en vous entendant, c'est que quand on a écrit un livre, ou deux, ou trois, ou quand on a écrit quelque chose, et qu'on entend des vrais lecteurs s'en emparer, on a envie de se taire et les écouter en parler, parce que ce qui est très fascinant et beau et heureux, même si parfois les retours sont hyper critiques, voire polémiques, c'est que le livre, il nous appartient plus, et que chacun peut en faire un usage qui n'est pas le sien.
Oui.
Et même s'il y a des malentendus ou des choses sur lesquelles on ne serait pas rigoureusement d'accord, dans le fond, c'est ça, un livre. C'est si, moi, je conçois mes livres en partie comme ça, c'est-à-dire que si vous, lecteur, et vous, lectrice, il vous parle et il vous stimule et il vous donne envie, il vous donne le désir de passer à l'écriture d'une forme, d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'il y a différentes manières d'écrire. Hein, peut-être que parler est une manière d'écrire. Eh bien, écoutez, tant mieux. C'est que le livre a, et d'une certaine manière, je dirais pas qu'il est arrivé à destination, mais voilà, il doit faire son chemin et surtout. Une fois qu'il est écrit, il appartient plus, il appartient pas à son auteur. Alors, d'abord,
la question de l'inquiétude.
Oui, exactement. Oui. D'abord, je suis pas sûr que j'ai rien dit de la science, hein, parce que je suis pas spécialiste de la science. Mais ce qui m'a frappé dans les livres de Meyassou et de Malabou, surtout dans le livre de Malabou sur la neurobiologie du cerveau. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a affaire à des philosophes qui ne sont pas des scientifiques.
Oui.
Et qui ont un rapport à la science qui est complètement doctrinal et dogmatique.
Ce que tu appelles le scientisme, en fait.
Exactement, c'est ce que j'appelle le scientisme.
Oui, c'est ça.
Et donc, il me semble, je connais un peu, je fréquente un peu de scientifiques de loin, et d'ailleurs, quand je les fréquente, on parle peu de ces questions-là, mais la science est une folle inquiétude. Hein.
Oui, oui, oui.
Voilà, la question du doute, elle est essentielle en science.
Oui, tu le rappelles. Hein, dans
oui,
ton
je
ouvrage,
le rappelle,
hein.
C'est-à-dire
oui,
que les grands scientifiques, ceux qui cherchent et trouvent des choses, en fait leur vie de scientifique, elle est consacrée au doute.
Oui, oui.
Ils ont très peu de comment dire, ils ont très peu de prétentions au savoir, en tout cas à l'accès à la vérité. Ils prétendent du tout posséder la vérité.
C'est ce que dit Albert Einstein dans Comment je vois le monde, hein. Et exactement, la science est la recherche, dit-il, et quand je me lève, j'ai une question. Et le scientifique, c'est celui qui n'arrête pas de se poser des questions comme un enfant avec un cerveau d'adulte.
Alors ça, c'est très einsteinien, mais moi, ce que je veux dire de la philosophie par rapport au transcendantal, c'est que le transcendantal, c'est par exemple, chez Platon, la détermination de l'idée du bien comme epekaina tes ousias, c'est-à-dire ce qui est au-delà de l'étentité et qui, par son excès sur le savoir et sur le discours, va mettre en mouvement le désir du philosophe. Mmh. Chez cette question-là, elle est le transcendantal chez Platon, de même que, de manière, j'ai envie de dire analogue, et je fais exprès de dire analogue, dans la scolastique médiévale, le transcatégorial, c'est le transcendantal des scolastiques. Mmh. Chez Descartes, dans le mouvement des méditations métaphysiques, l'hypothèse du malin génie, que Derrida appelle de manière géniale l'hyperbole démonique, ou démonique, j'ai envie de dire démoniaque, c'est le transcendantal chez Descartes. Et qu'est-ce qu'aura été le geste de Kant ? Il aura été un geste de révolution, c'est-à-dire de retournement. C'est-à-dire que Kant va couper le transcendantal de la transcendance, de la transcendance théologique.
Oui, oui.
Et donc c'est ça l'originalité, la force du geste de Kant, c'est de loger le transcendantal à l'intérieur du sujet. Donc, c'est un transcendantal qui se distingue de la transcendance. Ça, ni Meyassou ni Malabou ne le voient et ne le disent. Ils en restent à une détermination scolastique du transcendantal. Donc, en fait, ils ne parlent jamais de Kant. Ils parlent de la critique de la raison pure, l'un et l'autre, de manière comme si c'était une épistémologie de la connaissance et comme s'il s'agissait pour Kant de l'accord des catégories avec les conditions de possibilité d'expérience. Le transcendantal chez Kant... c'est un mouvement d'inquiétude hyperbolique. Donc hyperbolique, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est sans cesse en train d'essayer de se dépasser parce qu'il n'atteint pas ce qu'il cherche. Et c'est un mouvement qui a lieu en quelque sorte dans les profondeurs de l'âme humaine, hein. C'est ce que Kant va appeler le schématisme de l'imagination. Et qu'est-ce qu'il dit du schématisme, Kant ? Alors, c'est une partie de ma réponse à la question d'Isabelle, qui est quelle est la nature du transcendantal ? Oui. Kant dit une chose qui est extraordinaire. Le transcendantal, enfin, il le dit, ça se dessine chez lui, ça n'est rien. C'est-à-dire, ça n'est pas... Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué, très philosophique. Ça n'est rien en dehors de l'expérience, mais ça n'est rien. C'est-à-dire, ça n'est pas un étant, on peut pas le déterminer. C'est un inconnu. C'est le point sombre qui fait qu'on sait qu'il y a quelque chose à aller chercher, mais ce n'est pas objectivable. Hein. C'est-à-dire que c'est l'inconnu qui fait qu'on avance vers lui, mais on ne peut pas le déterminer. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas un étant. C'est pour ça que Kant dit « art caché dans les profondeurs ». Donc il y a « art », donc c'est un art, donc ce n'est pas un savoir, hein. « Caché ». Dans les profondeurs de l'âme humaine. Donc là, c'est l'âme. Il n'y a rien de plus métaphysique comme principe philosophique. Les profondeurs de l'âme, donc c'est une profondeur abyssale, mais cachée dans les profondeurs. Donc là, vraiment, on est dans une hyperbole. Hein. Et un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine. Et il dit quoi de cet art caché ? Il appelle ça schématisme de l'imagination. Pour moi, maintenant, j'ai pensé ce matin en préparant l'émission, en rêvant, je me suis dit, mais dans le fond, c'est presque l'hypothèse de l'inconscient chez Kant. Ouais. C'est l'hypothèse de l'inconscient chez Kant. Et il appelle ça imagination parce que c'est un penseur du XVIIIe siècle. Et il dit quoi du schématisme ? Il dit que les schèmes ne sont pas des images. Hein. Donc c'est des figures, mais non, c'est une représentation sans représentation. Donc c'est complètement paradoxal. Et il appelle ça un monogramme. Monogramme, c'est-à-dire c'est une écriture.
Oui.
Et c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé que là, il y avait une profondeur philosophique à la limite du conceptuel et du non-conceptuel. Alors je vais dire quelque chose qui va peut-être troubler les auditeurs, mais je trouve que là, on a des signes très clairs que Kant, c'est de l'immense littérature philosophique. C'est un niveau de prose au sens de Hölderlin, c'est-à-dire c'est vraiment de la poésie, quoi. C'est un niveau de prose sobre qui est extraordinaire. Donc je pense que c'est indépassable philosophiquement. Pourquoi j'appelle ça circoncision ? Ah. Alors on regarde le
temps. C'est bien. Non, parfait. Magnifique.
Non, mais l'idée, c'est que dans le fond, une émission de radio, quand on écrit un livre, on nous pose des questions. Moi, je me dis toujours, mais si je réponds vraiment, je réponds à une question. Et ça prend une heure.
Mais c'est très bien, parce qu'on a tout reparcouru. Non, vas-y, Marc, c'est magnifique la circoncision. Moi
alors,
aussi,
pourquoi circoncision et pourquoi rhétorique ?
Oui.
Alors, compliqué. Circoncision, bien entendu... c'est une référence, en tout cas, c'est inévitablement contaminé tout de suite dès qu'on dit circoncision par marque juive. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça ?
Tu le définis, pardon, comme blessure d'avance du langage.
Ça, c'est la première définition que D'accord. Je donne. C'est la définition que je donne dans le chapitre qui est consacré à Granel et Derrida, voilà, parce que c'est la manière dont dont Granel pense la circoncision chez Derrida. En fait, c'est très compliqué. Mon idée de fond, c'est qu'il s'agit de chercher le transcendantal dans les profondeurs de l'âme humaine. Donc il s'agit, d'une certaine manière... d'un mouvement psychanalytique. Donc là, vraiment j'y associe Freud, hein, à cette idée de aller analyser jusqu'à l'inanalysable. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas résoudre, ce dont on ne peut pas trouver la solution. Aller orienter l'analyse du sujet, la faire descendre dans les profondeurs de l'âme humaine, je dis bien le mot âme, hein, plutôt qu'appareil psychique, je pourrais dire appareil psychique, mais je dis bien le mot âme, et lui faire toucher à l'inanalysable. C'est quoi l'inanalysable ? C'est ce qui va excéder, qui va comment dire, être l'origine des rêves, de la pensée, de la sensibilité, et donc l'origine présubjective du sujet. Donc c'est ça que je cherche, dans le fond, c'est quelque chose qui, dans le sujet, ne serait pas encore le sujet. Serait la naissance du sujet. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse dans la circoncision. Alors, au fait que ça, ce soit juif, c'est vrai, mais j'entends par juif quelque chose qui n'est pas une religion. Et donc c'est juif, mais comme l'a très bien dit Isabelle Raviolo, c'est aussi grec. Et je suis très content qu'elle ait fait allusion à Ulysse, puisque dans mon livre sur la littérature, je consacre le premier chapitre de mon livre à l'Odyssée et à la question d'Ulysse, c'est-à-dire la question qui, et le fait que la blessure d'Ulysse, est-ce que c'est une blessure sur la hanche, la blessure par laquelle Ulysse est reconnu par sa nourrice? Non, c'est une blessure sur la jambe, parce qu'il a été blessé à la chasse, c'est
oui,
ça?
C'est au niveau de la cheville. C'est la cheville gauche qu'elle reconnaît, puisque il a été blessé enfant à la chasse et que sa nourrice avait soigné cette blessure.
Alors, moi, j'ai écrit un texte qui est dans aucun de ces deux derniers livres, qui porte sur le Jugwik, où je me demande s'il n'y a pas, alors je joue à croiser l'un et l'autre, des parentés impossibles, des choses très étranges que je croise entre Moïse et Ulysse. D'accord ? Les textes concernant Moïse dans la Bible juive datent d'à peu près la fin du 7e siècle. L'Odyssée a vraisemblablement été écrite un siècle avant. Mais malgré tout, il y a des choses très très étranges. Et là, en entendant la question d'Isabelle Raviolo, je me suis posé une question pour moi, ce qui précède la circoncision, c'est la scène, dans la Bible juive, c'est la scène de Jacob et du combat avec l'ange. C'est un des textes les plus anciens de la Bible juive, le combat de Jacob avec l'ange. Et Jacob, il a la hanche démise.
Oui, voilà. C'est au guet du Yabok, quand dans la nuit, Jacob lutte avec un inconnu. On nous dit après, au verset 40, qu'il s'agit d'un ange et que cet ange est l'envoyé de Dieu. Et donc que ce combat va aller jusqu'au nom, puisqu'avant, Jacob n'a pas vraiment de nom. C'est une fois blessé qu'il a un nom.
Alors je me demande, je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais je ne l'ai pas écrit parce que je n'ai pas trouvé...
Je continue. C'est moi qui vous arrêterai.
D'accord, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que j'appelle circoncision, c'est... la naissance du sujet qui le précède, et j'appelle circoncision ce qu'on appelle circoncision, c'est-à-dire une coupure qui vient marquer le sexe à la naissance et qui vient répéter la coupure du cordon ombilical qui fait que le nouveau-né vient au monde. Et cette coupure du sexe, c'est à la fois une coupure de l'organe de la semence, par lequel l'homme va enfanter une multitude, hein, puisque c'est ça que Dieu promet à chaque fois, à chaque être qui, contracte une alliance avec lui par la circoncision. Il lui promet une multitude de nations. Donc à la fois, c'est ce qui couple le sème, c'est-à-dire le nom, et c'est ce qui marque la finitude de la semence et sa dissémination. Donc pour moi, circoncision, c'est dans le fond la marque de la finitude, et c'est le premier signe de l'écriture. Et c'est un signe qui a lieu, j'ai envie de dire, sur le corps, sur la peau même, c'est une incise de la peau. Et donc pour moi, c'est une allégorie, circoncision, de l'écriture. Et ça a lieu, en quelque sorte, c'est ce qui place le sujet avant sa naissance, du côté du féminin, puisque c'est les femmes qui opèrent la circoncision. Et d'une certaine manière, cette marque, elle rappelle à l'homme qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas transcendant, et que son nom est coupé. Hein, Abraham devient Abraham. Mm-hmm. Ça, c'est un exemple. Au moment de la circoncision, Sarai devient Sarah, avec le H. Mm-hmm. Cette aspiration, c'est la circoncision qui s'inscrit dans le nom. Et comme je suis benyaminien, Benjamin disait, je suis celui qui s'appelle Walter Benjamin. C'est-à-dire, il pensait de manière très, très, très belle que d'une certaine manière, notre nom nous met en dette vis-à-vis d'un... Et d'une certaine manière, nous envoie quelque chose de destinal.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, cher Marc. Merci à Marc Goldschmidt d'être venu.
Merci
beaucoup. On a dépassé de 2 minutes, chers auditeurs, mais c'était ce qui nous... La conclusion, c'est qu'il faut que Marc revienne pour son prochain ouvrage. Il faut que tu nous le rappelles, le titre de ton ouvrage, parce que dans la littérature, l'autre métaphysique. Il faut que tu reviennes.
Moi, j'aimerais beaucoup, Nathalie, mais si Marc est d'accord, qu'il revienne pour cet ouvrage.
Oui, j'aimerais beaucoup aussi.
Réitérer tout ce champ de questions sur la signification des signes que je n'ai pas eu le temps de vous poser, Marc, qui va se libérer de la similitude et du semblable. Et donc, au fond, tout ce que Michel Foucault pense, que la littérature est cette réapparition de l'être vif du langage et toute son analyse, l'analyse foucaldienne de Don Quichotte. J'aimerais bien revenir là-dessus.
Oui, ben alors ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Toutes nos excuses.
Merci, chers auditeurs.
À Raphaël Périvet, qui est avec nous aujourd'hui, là, la technique, qui se dit, mais bon sang, ces philosophes, quand on leur donne la parole, ça ne s'arrête plus. Mais voilà, c'était magnifique. Merci à Marc Goldschmidt de nous avoir fait l'honneur d'être venu aujourd'hui, ce samedi pluvieux, d'avoir parlé si bien de cet ouvrage dont je rappelle le titre, Sous la peau du langage, l'avenir de la pensée de l'écriture, aux éditions Quimet, 2020 la sortie. À très bientôt, chers auditeurs. Merci de votre écoute. À très bientôt, Isabelle. Merci, Marc.
Merci, Nathalie.
Merci.